me vaut d'être ici, c'est la délation. Ça commence bien sur la résistance. La délation du pasteur Nicole Favre, que j'avais interpellé il y a 3 ans, parce que dans la paroisse où je suis, au Grand Temple à Lyon, on a un groupe qui s'appelle Bible et œuvre d'art. Donc le principe est de lire la Bible et de regarder comment est-ce que le texte qu'on étudie a été illustré un peu dans l'histoire par différents artistes, et du coup de lire les œuvres d'art comme on lit la Bible, pour voir quelle interprétation l'artiste propose du texte qu'on a travaillé. Et j'ai eu beau résister pendant 6 ans, la 7e j'ai dû accepter de faire Apocalypse. J'avais pas très envie de m'y aventurer, mais le groupe m'y a un peu obligée, pour mon plus grand bonheur. Donc je me suis fait aider par Nicole Favre au démarrage, et au point que maintenant elle me refile quand on m'invite, et voilà. Et ça m'a tellement passionnée que du coup je dis oui souvent quand on me demande d'intervenir sur ce thème-là. Alors, l'Apocalypse, c'est souvent un livre qui fait peur. Je crois pas qu'à moi. C'est un livre qui est pas facile à ouvrir, qu'on a du mal à ouvrir tout seul, honnêtement, parce qu'on n'y comprend rien. On a l'impression d'être un peu baladé, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux tirer de la lecture d'un livre comme ça pour ma foi, pour ma nourriture spirituelle. Et je pense que, en tout cas, pour nous réformer, il y a aussi autre chose qui joue, c'est que on connaît un certain nombre de lectures littérales de ce livre qui ont conduit aussi dans l'histoire des églises à annoncer la fin du monde régulièrement, à avoir une lecture de l'histoire dans laquelle on se retrouve pas tout à fait. Donc on est un peu pris entre deux feux autour de ce livre. Et je vais vous dire, c'est justement ça qui rend la chose intéressante, parce que quand on dit ça, on touche quelque chose d'essentiel dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, en fait, le mot apocalypse, nous, on l'entend en français comme un synonyme de catastrophe. Quand tu dis « oh là là, c'est l'apocalypse », c'est que rien ne va plus. Eh bien, figurez-vous que ça n'est pas du tout le sens du mot apocalypse. Parce que le mot apocalypse, ça veut dire « dévoilement ». Les Anglais, par exemple, dans les Bibles anglaises, c'est traduit « révélation », « revelation », qui est beaucoup plus proche du mot. En fait, nous, on a traduit littéralement, quoi, apocalypto, apocalypse. Sauf que, du coup, c'est un mot qui a dérivé et dont on a perdu le sens. Le sens de ce mot, c'est vraiment dévoilement, comme quand vous avez une statue qui va être inaugurée, mais jusqu'à l'inauguration, il y a encore un voile dessus. Le projet du livre de l'Apocalypse, c'est de tirer le voile pour nous permettre de découvrir des choses qui sont encore cachées. Mais c'est avec ce projet un livre qui fait référence à des choses qui sont vécues aujourd'hui. C'est-à-dire que si je reprends la métaphore de la statue, elle est bien devant nous, elle existe. Et donc, ce dont nous parle l'Apocalypse, c'est notre foi actuelle. Et c'était vrai au moment où ça a été écrit, mais je fais le pari que c'est encore vrai aujourd'hui. Pour réussir à faire ce travail de dévoilement, l'Apocalypse utilise un truc. C'est que elle nous désoriente, c'est-à-dire qu'elle fait exprès de nous transporter dans son style littéraire dans un monde où nous perdons nos repères, et en particulier tout ce qui est de l'ordre de la compréhension logique. L'Apocalypse, elle utilise d'abord les 5 sens. Elle veut nous faire entendre des choses, elle nous fait voir des choses, elle nous fait toucher des choses. On est sur le registre de la vision. Et c'est ce détour par la vision, mais qui n'utilise pas que les 5 sens, hein, si vous regardez dans l'Apocalypse, le nombre de fois où il y a des voix, où il y a des sonneries de trompettes, des roulements des grandes eaux qui font un bruit assourdissant, etc., c'est aussi très, très présent. En fait, c'est pour nous obliger à rentrer dans le domaine de la foi autrement que de façon intellectuelle. C'est vraiment un livre qui assume ça, et qui donc nous en met plein la vue, plein les oreilles, pour nous obliger à réfléchir autrement, comme quand on est devant une expérience très forte, quoi, un choc, et puis après on réfléchit. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes clés de lecture de l'Apocalypse. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Juste quand j'ai reçu la sollicitation, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on me demande de faire quelque chose sur l'Apocalypse sur une semaine dans le thème de la résistance? Donc j'ai imaginé que c'est parce que souvent on dit que l'Apocalypse c'est un livre codé qui a été écrit pour des populations, enfin les premiers chrétiens qui étaient persécutés et qui étaient donc en situation de résistance. Donc je ne sais pas si c'est la bonne hypothèse, mais alors c'est vrai qu'on beaucoup de commentateurs ont dit ça pendant longtemps en disant c'est un livre qui s'adresse à des chrétiens qui étaient persécutés, qui n'avaient pas le droit de vivre leur foi et qui a pour objet de les fortifier dans leur foi. Et il est codé pour qu'il n'y ait que eux qui comprennent. En fait, aujourd'hui, les gens qui font des recherches sur l'Apocalypse avancent l'hypothèse inverse, en disant pas du tout, c'est un livre qui s'adresse à des gens qui étaient parfaitement intégrés et qui justement étaient trop bien intégrés et où la menace, c'était pas d'être persécuté à cause de sa foi, c'était de voir sa foi se diluer dans une société qui portait de toute autre valeur et que justement on baissait la garde, la vigilance, parce qu'on n'était plus dans le temps des persécutions. Moi, je suis pas historienne, donc je vais pas trancher entre les deux hypothèses. Je trouve que l'une et l'autre sont intéressantes pour nous. C'est-à-dire que finalement, qu'on soit dans la situation de résistance à des convictions qui nous seraient imposées par la force et qui sont différentes des nôtres, ou dans des conditions qui sont des conditions d'assimilation qui fait que petit à petit, on perd de vue ce qui est peut-être important pour nous. Dans les deux cas, c'est une situation de résistance. Donc, je tranche pas entre les deux hypothèses. Je dis juste que c'est peut-être pas, voilà, pas si simple que ce qu'on croit souvent là non plus. Et du coup, la question qui m'intéresse toujours quand je lis la Bible, c'est en quoi est-ce que ce texte parle aujourd'hui, même si je sais bien que ce texte n'a pas été écrit aujourd'hui, qu'il a une histoire, qu'il est parvenu à travers nous, à travers tout un tas de péripéties. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ça me parle à moi et aux autres aujourd'hui, comment est-ce que ça nourrit notre foi. Donc c'est aussi vrai dans ma lecture, la lecture que je vais partager avec vous de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, du coup, j'ai axé plus particulièrement sur la question de la résistance. Finalement, qu'est-ce que ce livre, et plus particulièrement le passage qu'on va étudier ensemble, nous dit de la menace qui pèserait sur nous aujourd'hui, et en particulier sur notre foi, et menace à laquelle nous devrions résister. Voilà, donc je suis entrée dans ce texte avec cette question, et j'espère que ce qu'on va partager ensemble va nous permettre d'avancer sur cette question. Donc j'ai choisi deux chapitres qui sont les chapitres 12 et 13 du livre de l'Apocalypse, donc c'est à peu près au milieu, pour vous les situer très vite, puisque vous n'avez peut-être pas tous en tête le détail du plan de l'Apocalypse. Surtout que l'Apocalypse, c'est compliqué parce que c'est pas linéaire, c'est pas un livre qui enchaîne les choses de façon logique. L'Apocalypse, c'est un livre qui avance comme une spirale. Vous savez, une spirale, ça avance, et en même temps, ça tourne en rond, c'est-à-dire que dans l'Apocalypse, on repasse régulièrement à l'aplomb de thèmes qu'on a déjà vus, de façon un petit peu décalée, qui fait que ça avance, mais en même temps, on a une impression parfois de répétition. Donc vous avez des grands cycles dans l'Apocalypse, à la fin duquel, hop, on revient à l'aplomb d'un thème qu'on a déjà vu. Donc pour aller très vite, je vais vous dire un peu ce qu'il y a avant le chapitre 12 qu'on va lire ensemble. Donc l'Apocalypse, elle s'ouvre sur la description de Jean qui est à Patmos et d'une première vision où il reçoit finalement cet ordre d'écrire tout ce qu'il va voir. Et juste après, on a des lettres qui sont envoyées à cette église d'Asie mineure. Et c'est un peu la partie, l'introduction, on va dire, pour dire cette vision, elle est adressée à des gens, à des églises qui ont des questions particulières en ce temps-là. Donc ça, c'est la partie introductive, à peu près les trois premiers chapitres. Ensuite, vous avez une première grande vision. Et alors dans l'Apocalypse, c'est très cinématographique. C'est pour ça que les peintres ont beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'en général, vous avez une grande vision qui est la toile de fond. Et puis après, vous allez avoir des plans plus rapprochés, des gros plans ou des choses qui vont se passer devant la toile de fond. Mais la toile de fond est toujours valable. Et souvent, c'est ces toiles de fond qui permettent de faire un plan de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, là, on est dans cette toile de fond-là, donc on fait une partie avec ça. La première toile de fond de l'Apocalypse, c'est une vision qui montre en fait Dieu sur son trône, entouré de 24 vieillards, et puis avec un trône entouré de 4 êtres vivants, qui sont des animaux un peu spéciaux qu'on a souvent interprétés comme étant les quatre évangélistes. C'est une interprétation un peu tardive et l'Apocalypse ne dit rien pour ça. Et puis d'une grande foule autour de donc ça tourne hein, de façon concentrique, et une grande foule qui est en train de louer Dieu, et on voit un agneau s'approcher du trône et donc rejoindre Dieu sur le trône, et cet agneau est égorgé. Il est égorgé et pourtant il est toujours vivant. Ça, c'est la grande toile de fond qui sert de toile jusque à la fin du chapitre 11. Voilà. Et au début du 12, donc là où nous on va lire, on a une deuxième toile de fond qui s'ouvre. C'est pour ça que c'est important que vous le sachiez. On est vraiment à une partie charnière du livre de l'Apocalypse avec ce chapitre 12. Si je devais résumer mon choix de ces deux chapitres pour les mettre en lien avec la question de la résistance, parce que je pense que c'est dans ces deux chapitres-là qu'on voit le plus quelque chose qui est un fil conducteur de tout le livre, qui est le fait que l'Apocalypse prend au sérieux ce qui nous menace, tout ce qui nous menace, et qu'elle le prend tellement au sérieux qu'elle commence par le mettre sous nos yeux en nous disant « Voilà ce qui vous menace, et maintenant que vous savez ce qui vous menace, vous allez pouvoir résister. Vous allez pouvoir faire le choix de ne pas suivre ce chemin-là parce que vous le connaissez. Tant que vous n'en avez pas conscience, vous ne pourrez pas résister. » Et c'est pour ça qu'on a toutes ces visions qui, quand on les prend de but en blanc, paraissent des catastrophes. En fait, c'est pas des catastrophes, c'est des révélations de ce qu'est vraiment la condition humaine. Parce que c'est une façon de nous dire, le Christ nous rejoint là. Un Dieu crucifié, c'est un Dieu qui décide de nous rejoindre dans l'endroit le moins agréable de notre vie. Voilà, et c'est la clé de lecture, ça, de l'Apocalypse, et on va le voir très bien dans ces chapitres 12 et 13. Alors, je vous ai préparé une petite photocopie, enfin, ces messieurs ont fait des photocopies. C'est important pour moi que vous ayez le texte pour pouvoir suivre ensemble la lecture et ce que je dis au fur et à mesure. Mais aussi parce qu'effectivement, j'ai l'intention de vous solliciter avant de parler. Alors, je sais bien que j'ai un peu d'avance, puisque j'ai déjà lu ce texte avec beaucoup de groupes et dans différents endroits et lu pas mal de choses dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que vous allez pouvoir y trouver, vous, en le lisant. Donc, je vais vous dire tout de suite les deux questions que je vais vous poser. Comme ça, quand on va le lire ensemble, vous aurez dans la tête les questions que je vous pose. Et on pourra partir avec les réactions. J'attends que la feuille se distribue tranquillement. Ah. Alors, il en manque beaucoup. Alors, du coup, peut-être il faut commencer par lire un pour deux au début, puis peut-être pour qu'il y ait quand même quelques textes vers le fond, si... voilà. Oui, c'est bon. On est victime de notre succès. On va en faire, mais c'est pour qu'on perde pas trop de temps. Je me disais que c'était bien que, voilà, au moins un pour deux, vous puissiez à peu près suivre. Donc vous allez voir dans la lecture du texte. Le texte, en fait, les chapitres 12 et 13... mettre face à face deux signes. Donc c'est comme ça que ça commence. Et en fait, la question que je vais vous poser, c'est quels sont ces deux signes ? Parce que vous allez voir qu'il y a des figures de tête, et puis derrière, ils ont un peu comme des personnages qui les suivent, chacun de ces deux signes. Et qu'est-ce que vraiment le texte en dit ? Non pas qu'est-ce qu'on a pu en savoir déjà ou qu'est-ce qu'on en a déjà entendu, mais vraiment qu'est-ce que le texte dit sur chacun de ces deux signes. sans oublier, hein, jamais, que même si on est complètement dans la vision, vous allez voir, avec des images assez impressionnantes, le texte nous dit bien au départ, ce sont des signes. Le principe du signe, c'est que son sens ne se confond pas avec ce qu'il est. Vous savez, quand vous avez un panneau indicateur qui marque Annecy 20 km, vous savez bien que vous n'êtes pas à Annecy. Hein, c'est le signe, c'est, y a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, on va vous en mettre plein la vue, mais vous savez que c'est un signe. Et que donc votre travail, c'est d'aller voir plus loin sur qu'est-ce que ce signe va signifier. Ne vous laissez pas prendre au piège de ce que vous allez voir. Il faut, c'est un poteau indicateur pour vous indiquer autre chose. Voilà. Et le texte en parle aussi de cette autre chose. Donc on est sur ce double niveau. Je commence à lire, donc, maintenant que vous avez les questions. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue de soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouvera plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Aussi, soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. » Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable de la mer. » Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes. Sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Voilà. Donc je peux vous assurer que les peintres de tout temps se sont régalés avec cette affaire-là. Donc tout à l'heure, je vous ai préparé une petite projection qui marchait tout à l'heure. Donc j'espère que ça remarchera pour vous faire un petit voyage. Voilà. Mais avant de regarder, on va essayer de voir de plus près donc ce texte-là. Alors, ces deux signes en présence, quels sont-ils? Qu'est-ce qui nous en est? Voilà, comment est-ce qu'ils nous apparaissent? Quels sont les ensembles qui sont dessinés? Et puis, quelles sont leurs caractéristiques? Voilà, et encore une fois, qu'est-ce que le texte nous dit, hein? C'est important pour moi que vous rentriez un peu dedans par vos propres moyens, que vous osiez plonger. Parce que c'est écrit en français quand même, hein. Alors, un dragon, absolument. Le dragon, il est comment? Il est rouge. Rouge de la couleur du feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre? 7 têtes. 10 cornes. Et des diadèmes. Des diadèmes, des couronnes, hein, le signe du pouvoir, sur la tête. Comme des rois. Hein? Donc c'est vraiment, on est dans cette image-là. Ce dragon, est-ce qu'il est tout seul? Alors il est avec qui?
Deux bêtes.
Oui, alors beaucoup plus tard, au départ il est tout seul. Et alors regardez comment il est appelé quand il est tout seul, dans les versets 8-9 là. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan. Alors, Harry Buffet, le serpent d'autrefois, Adam et Ève, le jardin d'Éden, le serpent d'autrefois. L'Apocalypse fait des références constantes à la Genèse et au livre de l'Exode. On ne comprend pas l'Apocalypse si on ne connaît pas très bien le livre de la Genèse et de l'Exode. Tout est en lien. Ils se relisent. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'Apocalypse n'est pas pour rien. À la fin, c'est un écrit de clôture. C'est-à-dire qu'elle fait le lien avec ce qu'il y a au début et avec tout ce qu'il y a entre les deux. Voilà. C'est vraiment un écrit qui vient clore les écritures. Alors, revenons. Donc, le serpent d'autrefois, effectivement, l'histoire de la Genèse. Le diable, ça veut dire divisé, c'est celui qui divise, l'inverse du symbole. Le symbole, il tient ensemble. Le diabolos, il sépare. Voilà, le diabole, il sépare. Il met un coin entre des choses qui semblaient aller ensemble et qui n'y vont plus. Le Satan, c'est quoi le Satan? C'est l'adversaire. L'adversaire. Donc vous voyez que ce dragon, dès le début, il nous est décliné. On nous dit bien, hein, c'est un signe. Voilà ce qu'on doit voir derrière. Et on a une mise en perspective où dans tous les récits de la Bible, on va pouvoir retrouver des liens. Hein, le Satan, le diable et le serpent d'autrefois. On est sur cette ligne-là. Voilà ce qui nous... Ah, voilà, ça y est. Voilà, donc ça c'est la mise en perspective. Alors qu'est-ce qu'on en sait d'autre si on continue à regarder? Il égare toute la terre habitée, oikoumené, c'est ça le mot qui est employé. Donc il a une fonction bien particulière, il est là pour égarer. Voilà, pour disperser, pour envoyer sur un mauvais chemin. Donc nous, on sait ça là. Donc après, quand on va regarder les acolytes du dragon, comment ils fonctionnent, on sait que l'objectif, c'est d'égarer, de nous envoyer sur des fausses pistes. Donc on va voir quelles sont ces fausses pistes qui nous sont indiquées. Si on continue après, donc il y a effectivement deux bêtes qui arrivent derrière lui. Ça, c'est au chapitre 13. Aujourd'hui, les jeunes, ils appelleraient ça des avatars. C'est-à-dire que vous voyez bien que à la fin du chapitre 12, la bête, elle est postée dans un lieu limite, c'est-à-dire que elle se poste sur le sable de la mer. Il y a eu combat, le combat n'est pas tout à fait gagné, il n'est pas tout à fait perdu. Et donc chaque belligérant, donc on reviendra à l'autre tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, le dragon, il est encore vivant, il est encore là, il est à une extrémité du monde, mais il y est bien. Et c'est à ce moment-là que surgissent, donc, une après l'autre, deux bêtes qui vont, entre guillemets, le remplacer. Donc, la première de ces 10 bêtes, à quoi elle ressemble et à quoi ça nous fait penser? Pardon? Non, c'est... Non, alors le grand aigle, il est plutôt avec la femme, donc il est plutôt de l'autre côté. On est à partir du verset 1. Alors, 10 cornes, 7 têtes, c'est-à-dire 10 diadèmes. Donc ça, c'était les attributs du dragon. Donc elle ressemble au dragon. Hein. Mais sur ses têtes, il y a des noms blasphématoires. Donc le blasphème, c'est ce qui contredit le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on a fait un pas de plus. C'est-à-dire que sur ces têtes qui représentaient la puissance déjà pour le dragon, là, on voit bien que c'est en plus une puissance qui s'oppose à Dieu. Et qu'on va essayer de nous emmener dans cette direction-là. Cette bête, alors, un léopard, l'ours, la bouche comme le lion. C'est quoi tout ça? L'ours, la bouche, l'ours, le lion. Des bêtes fauves, des bêtes sauvages. C'est-à-dire la partie animale la plus violente. C'est pas des animaux domestiques, hein. Aucun de ceux-là. Et c'est des crocs acérés, c'est des griffes, c'est effectivement tout cet aspect-là de violence. Donc c'est une bête qui s'inscrit dans ce registre-là de la bestialité. Qu'est-ce qu'elle reçoit, cette bête? Le pouvoir du dragon. Donc il délègue son pouvoir. Et donc cette bête, même si elle n'est pas le dragon, elle a le même pouvoir que le dragon. Et alors, une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Alors, une copie de la crucifixion et de la résurrection. Effectivement, peut-être. C'est-à-dire, on nous dit, une blessure mortelle. Si elle est mortelle, on meurt. On nous dit, elle est mortelle, mais en même temps, elle est guérie. Et on nous dit, l'une de ses têtes était comme égorgée. Elle n'est pas égorgée, elle est comme. Celui qui est égorgé, c'est l'agneau. Et il est vraiment égorgé, même s'il est toujours vivant. Là, ça y ressemble, mais ça, vous voyez, ça a le goût et la couleur, mais ça n'en est pas. C'est un peu comme le Canada Dry. N'empêche qu'elle se présente comme ça. Donc, ensuite, si on continue, donc on verra les réactions que provoque cette bête. Donc, le verset 5 du chapitre 13, au dos de la feuille. Cette première bête, on nous dit... Elle a une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc une durée limitée. Je ne m'aventure pas sur le sens des durées, des nombres, ça nous emmènerait un peu loin. Mais en tout cas, c'est une durée limitée, c'est ça qui est important. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom, sa demeure et ceux qui ont leur demeure au ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Son arme, c'est sa bouche. C'est ce qui sort de sa bouche. Hein? Donc on a un animal puissant, enfin on s'attend à être déchiqueté en fait, ou mangé. On n'est pas mangé là, on est attaqué par ce qui sort de la bouche. En même temps, la bouche, retour, le dragon, il veut faire quoi au début? Il veut dévorer l'enfant. Donc, on est encore dans une affaire de bouche. On verra ce qu'on en fait après, mais il y a un lien sur ce que la bouche qui dévore ou la bouche qui parle. Et est-ce que la bouche qui parle, parfois, peut dévorer? Le texte, en tout cas. Et alors, on continue pour voir apparaître le deuxième avatar, à partir du verset 11. Qu'est-ce qu'on voit? Une autre bête. Alors, elle a deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Tiens. Donc c'est un avatar de la bête, mais qui essaye de se faire passer pour l'agneau. Elle parle comme un dragon. Donc ce qui ne trompe pas, c'est ce qui sort de la bouche. L'apparence trompe, mais par contre, la parole ne trompe pas. Elle exerce le pouvoir de la bête devant elle. Donc vous voyez, c'est par délégation successive. Hein. Le dragon délègue à la première bête, et la première bête délègue à la seconde. Mais c'est le même pouvoir. Il n'y a pas de perte de puissance entre les différents intervenants. Donc ce pouvoir, il se traduit comment? Verset 13. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la tête, devant la bête. Donc, elle égare, hein, c'est une idée qu'on avait déjà vue tout à l'heure. On sait bien que c'est le projet du dragon d'égarer. Donc, la deuxième bête, celle qui a l'air gentille, elle fait des grands miracles, des choses très visibles qui en mettent plein la vue pour but finalement d'égarer, c'est-à-dire de faire oublier ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, c'est quand même la même parole que celle du dragon. Donc elle trompe. Et alors on va encore un cran plus loin à partir du verset 15. Il lui fut donné, donc d'abord juste avant la fin du 14, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Donc de se faire une image devant soi. Alors c'est l'interdit absolu dans la culture juive, mais aussi chrétienne du coup, une image de Dieu. Une image de Dieu, vous croyez qu'on va faire quoi devant une image de Dieu? Ben, on va l'adorer, on est dans le blasphème. Et qu'est-ce qui est déifié comme ça? C'est la bête. La bête, on nous insiste bien, elle a l'air d'être quoi? Plus forte que la mort. Cette bête, on nous dit, elle a été blessée, mais en fait, elle est guérie. Voilà, donc on joue vraiment sur le même terrain que effectivement Jésus-Christ. Et donc là, ça va être intéressant de voir où est-ce que les choses se différencient, puisque nous, on sait que c'est un leurre. On va quand même aller jusqu'au bout en voyant les conséquences de ça, cette bête-là. Il lui fut donné d'animer, donc animer, c'est donner une âme, à l'image de la bête, donc d'animer l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tout ce qui ne se prosternerait pas devant elle. On est bien là, hein? Voilà. Donc c'est tout d'un coup, ce qui n'était qu'une image inoffensive devient quelque chose qui est porteur d'un pouvoir de mort sur tous ceux qui ne se soumettent pas à l'image. Mais en fait, nous, on sait bien ce qu'il y a derrière l'image. Derrière l'image, là, une bête, deux bêtes, le dragon et son projet, qui est de bouffer. D'égarer et de manger ce qui est sorti de la femme. Et une autre conséquence qui est mise en lien sur le fait de tuer ceux qui ne se prosternent pas, elle fait qu'on impose à tous, hein, c'est, y a une liste, une marque sur la main droite ou sur le front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir cette marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc elle installe un système de relations entre les gens, hors duquel ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils s'excluent du système qui permet de vivre, système d'échange, hein, acheter et vendre, l'économie, c'est aussi ce qui permet d'être dans un système d'échange. C'est-à-dire que cette bête, de par son pouvoir et sa parole, elle met en place un système d'échange complètement fermé. Et c'est son pouvoir se situe là aussi, dans cette capacité de mettre en place ce système-là. Oui. Et d'exclusion qui n'ont pas la marque. Du coup, être marqué comme un troupeau. On est marqué comme un troupeau. Et on est marqué par quoi ? Un chiffre de son nom, du nom de la bête, c'est-à-dire qu'on est tous marqués pareil. On est marqué du nom du propriétaire, comme le troupeau, avec ce chiffre-là, ce 666, dont on nous dit après d'y faire attention. Alors, pourquoi 666 ? Parce que c'est pas 7. 7, le chiffre de Dieu, et voilà, 7 c'est le chiffre de Dieu, c'est l'aboutissement, la création en 7 jours, enfin, bon, 7 c'est un chiffre qui revient tout le temps, dans l'Apocalypse, tous les cycles en font 7, et là justement c'est 6, donc ça y ressemble, mais ça n'en est pas, donc jusqu'au bout vous voyez, on est dans cette idée-là, non mais jusqu'au bout on est dans cette idée-là de ne pas se laisser abuser par ce qu'on voit et puis ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Exactement, l'histoire du marquage, c'est la négation de la singularité. On devient membre d'un troupeau. Quand on suit ça, on n'est même pas des numéros différenciés. C'est-à-dire qu'on est interchangeable. On est interchangeable au service de la bête, puisqu'on a tous le même numéro. C'est à l'inverse, si vous poursuivez la lecture, pour bien faire, il aurait fallu qu'on aille jusqu'au chapitre 14, mais là vraiment, en une heure, c'était mission impossible. Parce qu'au chapitre 14, les élus, ils reçoivent sur leur front leur nom. Ce qui leur est révélé, c'est leur identité singulière. Ce qui est l'inverse du marquage, tout le monde dans le même troupeau. Vous voyez un peu vous irez lire 14 chez vous. Voilà, à grands traits, donc, on a une partie, vous voyez, voilà, on a une des parties du texte qui se déroule comme ça. Alors je regarde, comme j'ai pas du tout regardé mes notes, je regarde si j'ai oublié quelque chose d'important qu'on pourrait partager sur ce registre-là, mais je crois pas. Oui, non, pour l'instant, ça. On continue notre inventaire. Alors, en face du dragon, on a qui ou quoi ? La femme. Cette femme, alors, elle donne la vie. Elle est en train de donner la vie. Et c'est ce qui la caractérise. Elle est vraiment en train de donner la vie. Ce qui n'est pas facile, hein, douleur, tourment, c'est quand même dit plusieurs fois. C'est pas un accouchement tranquille hein, qui est en train de se passer là, mais c'est quand même la vie. C'est quand même la vie qui est donnée là. Avant, elle est vêtue de soleil, elle a la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc ça, c'est quoi ? Le soleil, la lune, les étoiles, c'est l'univers. Voilà, alors après, bon, on peut interpréter la lune. Voilà, je vous laisserai aller voir, il y en a des pages et des pages. Si on reste un peu juste déjà sur un premier sens littéral, c'est que c'est en tout cas tous des éléments de l'univers. Donc c'est une femme qui s'inscrit finalement dans ce que l'univers porte de vivant. Et comme portant une puissance de vie plus forte, puisque finalement elle est habillée du soleil, la lune est sous ses pieds et les étoiles lui servent de diadème. Donc elle est quelque part au centre. Hein. Elle symbolise la vie portée par cet univers et la capacité de la vie à naître. Non pas que à être, à naître, à arriver. Donc avec la femme, qu'est-ce qui vient avec la femme ? Son fils. Voilà, qui va faire paître les nations. Donc lui, donc encore la métaphore du troupeau, mais pas dans la logique du marquage, dans la logique de la conduite. Et faire paître pour nourrir. Hein, donc pour conduire quelque part et pour nourrir, permettre au troupeau d'avancer. Voilà, édifier, faire grandir, etc. Donc ça c'est le fils, et ce fils il est enlevé auprès de Dieu et de son trône, donc je vous ai dit, hein, c'est la fameuse vision, la première qui était derrière, donc il est tout de suite placé du côté de Dieu. Et donc nous on sait que cette vie, elle est en proximité avec Dieu, et ça nous est dit dès le début comme une clé de lecture. Qui est-ce qui arrive au renfort, enfin au secours de la femme ? Michel. Alors, oui, l'archange, on l'appelle archange. En fait, Michel, il apparaît dans le livre de Daniel. Il a déjà un rôle important dans le livre de Daniel. Et c'est celui qui fait valoir le travail de Michel, chaque fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est celui qui fait valoir la vérité en face du mensonge. Voilà. Son travail à lui, c'est ça. Donc il c'est pas innocent là, son arrivée à ce moment-là. Et son travail d'ailleurs là, c'est bien de nettoyer. Et on voit que lui n'est pas tout seul. Hein, il a des anges. Donc vous avez au début la femme, le dragon, et puis vous avez en fait la femme, Michel et ses anges. Alors que les deux bêtes, elles vont venir plus tard sur un autre théâtre des opérations. Ensuite, cette femme, est-ce qu'il y a d'autres, voilà, d'autres éléments, personnages du texte qui arrivent avec elle plus loin ?
Le grand aigle.
Le grand aigle, oui. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi une image très courante dans l'Ancien Testament, une image finalement de la protection de Dieu, être porté sur les ailes de l'aigle, voilà. Et donc, et alors en plus là, ils sont donnés à la femme et elle s'envole au désert où elle est nourrie. Donc là, le désert où elle est nourrie, vous avez aussi tout ce qui s'est passé dans le désert pour les Hébreux, où ils ont été nourris. Et Élie, dans le désert, où il a été nourri. Et voilà. Et où, à chaque fois, c'est Dieu qui a conduit dans le désert, et où l'expérience du désert a été finalement une expérience de maturité. Et une expérience où on a fait l'expérience de Dieu, où on a pu éprouver que Dieu ne laissait pas tomber. Voilà. Donc cette femme, elle est mise de côté par Dieu. On voit bien hein, que c'est Dieu qui agit. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le dragon qui est repoussé aux extrémités de la terre, et puis on a la femme qui, quelque part, est mise en lieu sûr. Et qui est mise en lieu sûr avec Dieu qui s'occupe d'elle. Voilà. Et si vous regardez au chapitre 13, la femme semble avoir complètement disparu. Et tous ceux qui sont de son côté semblent, je dis, en tout cas en tant que personnage du texte, ça semble avoir complètement disparu. Voilà, il n'y a plus Michel, les anges, tout ça, voilà. Alors la différence entre le chapitre 12 et le chapitre 13, c'est qu'il ne se passe pas au même endroit. Chapitre 12, ça se passe dans le ciel, c'est là-haut. Chapitre 13, ça se passe en bas. Ça se passe ici, sur la terre. Bien sûr, il y a une charnière entre les deux, et on voit bien que le combat qui a lieu au ciel, on va s'intéresser maintenant à ce combat qui a lieu au ciel, il a des conséquences sur la terre. Et ça nous est dit dès le début, puisque le grand dragon, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber les étoiles sur la terre. Donc on voit bien que déjà l'action du dragon, ce qui se passe là-haut, a des conséquences sur ce qui se passe ici. C'est un peu voilà, une des clés aussi qui est dite là-dedans. Et alors, si on regarde justement comment ça fonctionne, ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Un combat, d'accord ? Qui nous est décrit comment et qui va vers où ? C'est verset 7, 8. Alors. Il n'est pas le plus fort. Le dragon n'est pas le plus fort. Dans le ciel, c'est dit clairement, hein, c'est le verset 8 du chapitre 12. Il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouve plus de place pour eux dans le ciel. Donc, le dragon est chassé du ciel. Donc c'est quand même un signe de victoire. Ceux qui gagnent finalement, c'est ceux qui sont du côté de la femme, de son enfant, des anges, de Michel, de Dieu, voilà, hein, du Fils. Voilà. Donc là, dans le ciel, on a l'impression que le combat est terminé. Le dragon n'est pas le plus fort dans le ciel. Ça, c'est une, entre guillemets, une affaire réglée. Sauf que non, puisque l'effet, c'est qu'il descend sur la terre.
Merci.
Voilà. Ben, merci ou pas merci. En tout cas, l'Apocalypse, elle décrit. Elle dit, de fait, voilà ce qui se passe. Et donc, de fait, le combat va continuer. C'est-à-dire qu'il n'est pas le plus fort, mais il n'a pas été tué. Pour ceux qui ont déjà lu l'Apocalypse, il est tué plus tard. C'est la fin du livre de l'Apocalypse, hein, les chapitres en particulier 20, le chapitre en particulier 20, où vous avez la fin du dragon qui là est tué, complètement zigouillé. Mais entre temps, il va se passer beaucoup de choses, parce que justement, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte ? Il nous dit aussi, oui, il y a eu un combat, oui, il y a eu une victoire, et pourtant, notre vie est confrontée au mal en permanence. Alors, comment on résout cette énigme ? C'est une vraie énigme de chacune de nos fois, de chacune de nos vies spirituelles. Et c'est pour ça qu'après, il décrit qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici sur la Terre. Et du coup, puisqu'il est déjà 1h15, on va s'intéresser... Excusez-moi, je vais un peu vite, mais... si on regarde, vous voyez, il y a un plan. J'avais sauté des lignes pour vous montrer un peu le plan du texte. Et si on regarde ce plan, on voit qu'il y a des parties dans le texte qui ont un statut un peu particulier parce que c'est pas un statut narratif. C'est-à-dire qu'on a des moments où l'histoire s'interrompt, on est en train de nous décrire, nous dire ce qui se passe, et puis on a des pauses et on a comme des commentaires de l'histoire. Alors nous, on va s'intéresser aux commentaires maintenant, là, pour terminer, parce que souvent c'est dans les commentaires qu'on a les clés qui permettent de comprendre. Donc le premier commentaire, c'est les versets 10 à 12. Avec la voix forte qui parle, on ne sait pas d'où vient cette voix forte. Hein. Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ. Donc, le sens de la victoire, c'est ça. C'est le règne de Dieu est établi, et il est établi à travers celui qui a été choisi par Dieu, et c'est le Christ. Donc ça, c'est posé comme étant une clé d'interprétation de ce combat qui s'est passé. Ce combat qui s'est déjà passé, c'est celui-là. Et il dit, l'issue de ce combat, c'est de dire que le règne de Dieu, c'est maintenant. Il est commencé. C'est pas quelque chose qu'on est en train d'attendre, c'est quelque chose qui est commencé. Voilà. Et en quoi elle consiste cette victoire? C'est que l'accusateur a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui accusait devant Dieu. C'est-à-dire, quand on est dans une position où quelqu'un vous accuse devant un autre, c'est-à-dire qu'on est devant un tribunal. Donc, celui qui accusait, qui nous plaçait dans une logique de tribunal devant Dieu, celui-là a été éradiqué du paysage. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus dans une logique de tribunal devant Dieu. C'est ça qui nous est dit. Il dit, le salut, le royaume de Dieu, c'est maintenant. On est sorti de cette logique où il va falloir qu'on se défende. Parce qu'il y en a un qui nous accuse. Notre relation de Dieu avec Dieu, elle est débarrassée de ça. Et c'est quand même une bonne nouvelle, si je peux me permettre. Ça, c'était un commentaire qui n'est pas là-dedans, mais... voilà. Et alors, si on continue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, qu'est-ce que c'est que ces images-là? Le sang de l'agneau. Le sang, c'est le Christ. L'agneau, c'est... Donc là, le sang de l'agneau, vous avez tout un tas d'images qui s'empilent les unes derrière les autres. Hein. C'est l'agneau de la Pâque juive, la sortie d'Égypte, le salut, enfin, offert dans la liberté, etc. Et puis, vous avez l'agneau identifié au Christ. Voici l'agneau de Dieu, dit l'évangile de Jean. Donc, le Christ identifié à cet agneau. Et le sang qui coule, c'est parce qu'il est vraiment mort. Il est vraiment égorgé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait semblant de traverser. C'est pas une mascarade. Donc, où est-ce que le combat a été vaincu? Dans le fait que ce sang a vraiment coulé, que le Christ est vraiment mort sur la croix, que Dieu nous a vraiment combattu. Combattu jusqu'au bout, de là où c'était possible de combattre. Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, c'est ce que eux ont dit de ce sang qui a coulé. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ça se soit passé si personne n'est là pour en parler. Voilà. Donc la parole, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que ce sang est coulé? Qui est Jésus-Christ pour moi? Comment est-ce que je peux rendre témoignage à ça? Et quand je rends témoignage, je m'enracine dans cette bonne nouvelle du salut et du règne de Dieu qui est déjà là, et le fait que je suis sortie d'une logique de jugement. Je n'attends plus que Dieu me juge, je me sais sauver. Et le témoignage qui sauve, c'est ça. C'est de s'enraciner là-dedans, de s'asseoir là-dedans et de dire, elle est là, ma forteresse, comme disent les psaumes, la chose dans laquelle je m'enracine. Alors ça, c'est pas divin encore, mais on peut le dire, parce que le témoignage, on le fait forcément à quelqu'un. C'est vrai que le témoignage, c'est... Alors le mot qui est employé là, c'est martyr. Hein, mais martyr, ça veut dire témoin. Donc c'est... Et ce témoignage, il s'enracine, là c'est la suite, ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. C'est-à-dire que cette parole, c'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui peut conduire jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est une parole qui fait le choix de la vie. cette parole, elle fait le en face du dragon qui veut empêcher la vie, parce que manger ce qui sort d'un accouchement, c'est bien empêcher la vie, passer d'un ventre à un autre, c'est ça le projet du dragon. Donc empêcher qu'il y ait de l'espace entre les deux pour que quelque chose puisse vivre. Donc la parole du témoignage et ce qui est apporté là, c'est de dire justement choisir la vie, choisir de non pas ce qui dévore, mais ce qui va pouvoir naître et être de ce côté-là. Voilà. Donc ils n'ont pas aimé leur vie. Soyez en fait cieux et vous qui y avez votre demeure. Donc on est bien dans des gens qui sont enracinés et qui habitent au ciel. C'est là finalement que se tient leur maison. Hein, c'est le mot demeure. C'est là qu'ils habitent. Donc finalement, quand on habite là, la vie d'en bas se met dans une autre perspective, puisque c'est pas en bas que tout se joue, c'est en haut. Vous voyez, c'est sur cet autre plan. Alors, bas et haut, c'est un peu piégé. Mais disons, c'est sur deux plans différents. Et quand je pourrais reformuler les choses en disant, quand on est spirituellement en vie, cette vie-là, elle est plus forte que physiquement en vie. Elle peut être plus forte que quand on est physiquement en vie. On pourrait dire, hein, le haut, c'est le domaine du spirituel, le bas, c'est le domaine du physique. C'est une caricature, mais c'est pour vous faire comprendre que cette différence de niveau, elle n'est pas juste géographique, ciel et terre. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ce combat n'enlève rien au mystère du mal. Le mal est toujours là. C'est-à-dire que ce combat qui a eu lieu, il a été gagné, et en même temps, il n'est pas terminé. C'est aussi ça qu'il nous dit, et donc il nous place dans cette perspective-là. Ce combat n'est pas terminé. Et donc maintenant, qui va devoir le mener ? Chapitre 13, je vous ai dit, la femme et ses avatars ont disparu. Par contre, il reste les avatars de la bête. Et en face des avatars de la bête, on va voir qui y reste. Et bien, qui y reste, c'est... Alors, attendez, je vais retrouver où est-ce que c'est. Verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc ceux qui sont en face, c'est ceux qu'on appelle les saints. Qui sont les saints à ce stade-là? On ne le sait pas tellement, si ce n'est que c'est en tout cas ceux qui ne se prosternent pas devant les avatars. Qui ne mettent pas leur confiance là. Si on remonte, ceux qui ne disent pas qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre. Qui ne disent pas le combat est perdu d'avance. Voilà, ils se sont pas laissés abuser et ils se laissent pas égarer sur ce chemin de cette bête tellement impressionnante que c'est même pas la peine de se battre, on sait qu'on a perdu. Mais non, eux ils savent que le combat est possible à gagner parce qu'il est déjà gagné. Donc voilà, donc ils n'ont pas donc du coup ils ne renoncent pas au combat. Ils sont dans une logique de combat même si apparemment le combat est perdu. Commentaire du verset 9 et 10. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, ça c'est un clignotant. Que ce soit dans les évangiles ou dans l'Apocalypse, quand vous avez ça, c'est « Attention, il faut écouter bien, c'est moins simple que ce qu'il y paraît. » Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. Donc ce qui se passe ici sur la terre, la destinée de l'homme, elle passe aussi par ça, par ces expériences-là. Et la victoire en Jésus-Christ n'enlève pas ces expériences-là. Par contre, c'est ici la persévérance et la foi des saints, c'est-à-dire que c'est quand on est en face de la mort que tout se joue. C'est là le lieu de la résistance. Persévérance, en fait, le mot qui est employé en grec, c'est un mot très intéressant, employé assez rarement, qui est qu'on peut traduire aussi par attendre de pied ferme. Donc ça peut être persévérer, mais c'est aussi c'est persévérer de façon active, si vous voulez. C'est vraiment dans persévérance, hein, il y a peut-être plus que dans résistance ou résistance. On parle de résistance passive. Dans la persévérance, il y a une action, quoi. Je veux dire, il faut persévérer. Et là, c'est vraiment ça, parce que c'est attendre de pied ferme, affronter, oser, supporter, endurer. Donc vous voyez tous ces sens-là qui sont. Donc c'est quelque part c'est s'arc-bouter, tout mettre en place pour être capable de ne pas être laminé par le torrent dominant qui est quoi ? Qui est le torrent de la mort. C'est de la menace, c'est de la menace sur notre vie. Et c'est là finalement l'heure de vérité, le moment où on résiste ou on résiste pas. Mais le combat il porte bien là-dessus, ce qui fait vivre ou ce qui fait mourir. Et c'est entre ces deux choses-là qu'il faut choisir. Et donc après le dernier commentaire, c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, son chiffre est 666. L'idée, c'est vraiment de dire encore une fois, la sagesse, on fait appel à notre sagesse, même si on en nous a mis plein la vue avec des images très impressionnantes, ne pas perdre sa capacité d'intelligence, de jugement, pour démasquer, de discernement, pour démasquer ce qui se cache derrière ce qui nous en met plein la vue. Et encore une fois, le critère, c'est ce qui sort de la bouche. C'est la parole. Est-ce qu'on fait confiance à la parole qui sort et qui dit, qui nous annonce la grâce, hein, en termes le salut, la puissance, le règne de Dieu, le combat est déjà gagné. Est-ce qu'on fait confiance à cette parole-là? Ou est-ce qu'on fait confiance aux autres paroles, qui sont les paroles qui viennent du dragon, et qui sont des paroles qui sèment la terreur, la domination, et qui argumentent leur pouvoir sur ce qui est un leurre, c'est-à-dire la capacité de vaincre la mort, c'est-à-dire l'immortalité. Voilà, c'est ça les deux camps. D'un côté, on a la vie à naître, la vie en mouvement, la vie comme une aventure dans laquelle fait partie la confrontation au mal, la vie comme un combat, hein, un combat à mener, mais un combat qui va vers la vie. Et en face, l'immortalité, qui est placée non pas comme un combat à mener, mais comme finalement un confort. Alors, il s'agit d'être un dans un troupeau et de se laisser conduire, mais conduire où? À l'abattoir. Et si je reprends ma question du début, parce que j'ai 25, si je reprends ma question du début, où finalement, à quoi est-ce que ce texte essaye de nous rendre attentifs, à quoi devons-nous résister? On doit résister à ce leurre qui est de nous faire croire que la vie est un long fleuve tranquille, que la vie est quelque chose de facile. Mais non, la vie n'est pas facile. Elle est extraordinairement belle, c'est un cadeau magnifique qui peut nous permettre de traverser, surtout la vie donnée par Dieu, quoi, hein, on est vraiment dans cette idée-là. Elle peut nous permettre de traverser tout ce que nous avons à vivre, mais elle est un choix et un combat. On choisit de vivre, on ne se laisse pas faire.
Merci à Anne Faisandier qui a fait plus que animer cette étude biblique, elle a réellement donné une âme. Donc merci beaucoup à elle. Il reste très peu de temps, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ah non, c'est pas assommé, c'est qu'on n'a pas vu passer le temps en fait. Vraiment, on finit cette semaine d'études bibliques en beauté. Jean-Pierre?
Non.
Une précision, on parle des anges de la bête.
C'est parce que ange, en fait, ça veut dire messager. Donc c'est que la bête n'est pas toute seule et qu'elle a des gens qui portent sa parole. Enfin, des gens, des choses, des événements, enfin voilà. Et je crois qu'il faut pas assimiler trop vite ange à quelque chose de Dieu. C'est vrai que dans la Bible, on l'entend plutôt là, mais en fait, non. Il n'y a pas que... Voilà. Il y a aussi Satan qui a des anges.
Merci à Anne. On va passer les images et je te donne la parole. Et je donne la parole de 2 secondes à Norbert.
Bon, c'est pas une question, c'est des remarques que je voudrais faire, des hommages que je voudrais rendre. D'abord à Anne Faisandier. Il y a une sorte d'apocalypse qui s'est produite parce que le nombre insuffisant de photocopies qu'on a fait est révélateur de l'intérêt au sens spirituel qu'elle suscite. Le monde est submergé par des drames, des tragédies qui provoquent l'angoisse, le désespoir, voire la désespérance. Et la tentation est grande pour beaucoup de baisser les bras, de renoncer à résister, justement. Et vous avez accepté de répondre à l'invitation de Jean-Marc. Et comme vous savez si bien le faire, vous venez restaurer, renouveler notre volonté d'opposer une résistance résolue au renoncement qui nous guette. Vous nous avez offert là une occasion de bénir le Seigneur notre Dieu pour ce qu'il nous offre à travers vous. Alors pourquoi bénir Dieu? Parce qu'il suffit de nous écarter, de vous écouter comme nous avons eu le plaisir de le faire tous les matins de cette semaine sur RCF et encore demain matin, ou lors des cultes que vous présidez sur France Culture, vos interventions, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment?
Non, mais c'est la réalité. Oui, et celle d'aujourd'hui le confirme. Oui, mais parce que je veux donner des informations qui permettent de retrouver Anne Faisandier. Vos interventions constituent de véritables encouragements à résister à la paresse intellectuelle, au contentement spirituel à bon compte. Résister avec nos tripes, pour reprendre une de vos expressions diffusée ce matin sur LCF. En fait, face à un texte biblique, on voit trop souvent qu'une sorte de plat pays, comme disait Brel. Et ce que vous avez montré encore aujourd'hui, c'est que vos méditations, vos réflexions viennent désencrasser nos regards pour qu'on puisse discerner le relief du texte et saisir les perspectives, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, qui rouvre à l'espérance pour qu'on puisse observer à fond l'étoile de fond, là, mais à fond l'étoile qui sont proposées à nos regards. Trop souvent, on ne sait pas écouter, en fait. Et vous êtes de celles et de ceux qui captivent notre attention sans nous rendre captifs. Vous nous aidez à laisser résonner au cœur même de notre être la parole que Dieu adresse à chacun de nous de façon singulière. Chacun reçoit une parole singulière. Et je signale, c'est surtout pour ça que je voulais intervenir, à ceux qui seraient intéressés, que depuis début mars, RCF offre la possibilité de télécharger certaines émissions. Il est donc possible de télécharger l'émission Halte spirituelle avec Béatrice Sotner, 5 émissions mais qui sont téléchargeables en une seule fois, où Anne Faisandier nous a particulièrement réjouis. Et la possibilité aussi de la retrouver sur France Culture, il suffit d'aller sur le site de France Culture, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous dirai comment, pour retrouver notamment ces méditations sur des chansons de Brel ou de Brassens, c'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Et puis dernière chose, qui concerne, c'est une deuxième occasion de bénir le Seigneur notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde en la personne de Jean-Marc Ventre, tant pis s'il rougit. Comme toujours, Jean-Marc a su n'opposer aucune résistance à la grâce, grâce qui lui a fourni l'inspiration pour choisir les intervenants, et chacun a pu constater cette année encore la qualité de ceux-ci, et ce n'a pas fini puisque dimanche nous connaîtrons un autre bonheur avec le pasteur Bernard Rohrdorf, lui aussi particulièrement brillant et enrichissant. Merci infiniment à Jean-Marc et à toute l'équipe pleinement investie pour garantir la parfaite réussite de cette semaine thématique. L'actualité est sombre, mais vous nous offrez un présent qui lui redonne de la lumière, de la couleur et qui nous redonne confiance en demain. Merci.
Je vais aller très vite et je ne vais pas faire d'histoire de l'art. D'ailleurs, je n'ai pas mis les tableaux dans l'ordre parce que là, il faudrait au moins encore une heure. Hein. Donc, c'est juste en illustration, donc il faut le prendre comme ça. Il faut savoir que c'est un thème qui, je vous l'ai dit, a beaucoup inspiré les peintres de toutes les époques parce que comme ça fonctionne sur les images, voilà. Je trouvais que c'était une belle manière de conclure. Simplement, pour vous dire une chose, en histoire de l'art, vous tomberez 9 fois et demi sur 10 sur des conférenciers qui vous parleront de la femme de l'Apocalypse comme étant la Vierge. Ça, c'est une interprétation tardive qui date du Moyen-Âge, qui est possible avec le texte, mais qui est simplement possible. Et c'est extraordinairement réduire ce texte que de réduire cette femme à la Vierge Marie. Voilà, je vous le dis, parce que vous y serez peut-être attentifs. Cette femme-là, elle est bien plus que la Vierge, elle est la puissance de vie. Alors, bien sûr portée par la Vierge, mais entre autres, pas que par la Vierge. Voilà, donc ça c'est, je ne sais plus, un manuscrit anglais, je crois, du Moyen-Âge que je trouvais intéressant pour commencer, puisque vous avez vraiment la file de ceux qui suivent, qui ont choisi leur camp, et même s'ils sont menacés par l'épée, voilà, ils sont quand même derrière la femme, ils ont bien choisi de quel côté ils sont. Donc ça c'est un manuscrit aussi assez ancien du Moyen-Âge, qui est le manuscrit de Bamberg, et qui fonctionne comme une bande dessinée, donc je trouvais que c'était aussi un bon récapitulatif. Voilà, il y a encore une autre image, voilà, ça c'est la fin du chapitre 12, vous voyez bien le serpent, hein. Vraiment le peintre a essayé de bien représenter ce serpent et la femme avec les ailes de l'aigle. Ça, c'est une enluminure du XIVe siècle néerlandaise. Et vous avez aussi une BD. Donc, vous avez en haut la femme avec la lune, le soleil. Là, on dirait couchée sur de la paille. En fait, c'est les rayons du soleil. Son enfant qui est mis à l'abri dans le temple, d'où sort les arcs-en-ciel, donc l'alliance. Et puis, vous avez Saint-Michel qui combat le dragon sur le côté avec un petit ange en dessous. La femme reçoit les ailes. Elle est mise à l'abri et le dragon est mis de l'autre côté, du côté de la mer. La mer, hein, pour les Hébreux, c'est la mort, tout ce qui est les puissances maléfiques qui sont là. Donc, Bamberg avec la bête qui sort de l'eau. Ça, c'est. Je termine le chapitre 13 avec la tapisserie d'Angers, voilà, qui est très intéressante quand on lit l'Apocalypse, hein, donc François 1er. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, le dragon qui donne son pouvoir à la bête, à la première bête, hein, qui lui ressemble mais qui n'est pas tout à fait la même. Ensuite, vous avez la bête qui exerce son pouvoir sur les hommes qui se soumettent. Et puis vous avez la deuxième bête, celle qui ressemble à un agneau et qui est en train de prêcher. Et ses belles paroles se transforment en violence, puisque donc ceux qui ne veulent pas adorer la bête sont tués. Voilà. Et donc toujours la bête en prophète qui envoie, enfin, vraiment dans une position, on changerait la tête, on mettrait Jean-Baptiste, hein, on verrait pas du tout la même chose, hein, mais c'est vraiment voulu. Voilà, j'ai fini.
Merci Anne Faisandier qui nous fait d'une manière très simple quelque chose de très compliqué en fait. Hein. L'Apocalypse, beaucoup de gens ont écrit effectivement, c'est très compliqué. Merci à vous. Je voudrais redresser quelque chose, effectivement je suis très visible, mais cette semaine thématique, il y a beaucoup de gens au travail. Il y a d'abord le conseil presbytéral qui a choisi le sujet, il y a l'équipe qui organise cette semaine, et on est plusieurs, et il y a tous les gens qui n'apparaissent pas, mais sans qui cette semaine serait impossible. Donc beaucoup de gens au travail, et puis beaucoup de gens qui participent, parce que si vous ne participez pas, il n'y aurait pas de semaine thématique. Donc merci à vous, et je vous félicite, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, si vous voulez bien.
Elles sont plus...